Nous sommes le jeudi 24 octobre, il est 21h tout pile, c'est vrai, hein, trop bien. C'est 21h tout pile. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Comment tu vas ?
Pas du tout à l'arrache.
C'est bien. Écoute, moi, je t'ai vu aujourd'hui te faire snober sur la route en voiture. Je t'ai vu renverser la bière sur quelqu'un. Ma bière sur quelqu'un en plus. Et je t'ai vu surtout ne absolument pas préparer cette émission. Bravo.
Écoute, j'apprends des meilleurs. J'ai suivi ton exemple.
Un beau combo.
Ça va être parfait. On n'est pas du tout arrivé juste avant que ça commence.
Au sommaire, aujourd'hui, on va parler du Steam Next Fest, un festival de... Non, tu arrêtes. Ça fait 2 semaines qu'on dit qu'on va le faire.
Pourtant, c'était que la semaine dernière.
Oui, enfin, c'est vrai.
Oui, c'est ça.
Mais ça fait 2 semaines qu'on a dit qu'on la faisait celle-là quand même. Le Steam Next Fest, donc, qui est une période pendant laquelle Steam, la plateforme donc de jeux PC, met en avant plein de versions de démonstrations de jeux vidéo, soit des jeux vidéo à venir, soit des jeux vidéo qui sont déjà sortis, soit même des démos qui sont sortis depuis 3-4 ans. Bonjour, Sorty Birds.
Sorty Birds. C'était pas la même, si ?
Bah, si.
C'est là, d'accord. Bon,
2000, hein. Et 2020, quand même.
Oui, donc, j'ai eu peur, oui.
2020, quand même.
Ok.
Et donc, en fait, traditionnellement, pendant ces événements-là, on fait une émission spéciale parce que, comme on le dit dans l'intro, on aime beaucoup les jeux indépendants et ces périodes-là sont des périodes où on peut essayer beaucoup de démos de jeux indépendants, en découvrir des nouveaux, avoir des confirmations sur des jeux qui ont déjà été annoncés mais sur lesquels on n'avait pas trop de visibilité quant au gameplay. Donc c'était super intéressant d'essayer des démos. Est-ce que toi tu as essayé des démos et si oui, combien ?
Alors combien, c'est une très bonne question.
D'accord.
Très honnêtement, j'en ai essayé pas mal, ouais. Parce que comme tu le dis, c'est vraiment un moyen de découvrir des trucs et de se faire une idée. Donc le concept est intéressant. Quand on a nos âges, on se souvient des années 90 avec les CD de démos qui étaient distribués dans les magazines.
Et c'était la drogue.
Complètement. Et il y a plein de jeux. En fait, on a passé des heures à relancer la démo parce qu'on n'avait pas d'argent.
Et surtout, même des fois, on disait la démo est super, mais il est introuvable en magasin, en fait.
Aussi, c'est vrai.
Parce qu'il y avait aussi ce côté-là, vu qu'il n'y avait pas de diffusion, sur Internet ou quoi que ce soit.
Ouais.
Il fallait que le jeu soit disponible en magasin. Et il y a plein de jeux. Je sais que moi, Interstate 76, j'ai mis entre moment où j'ai joué à la démo et le moment où j'ai trouvé le jeu, il a passé quelque chose comme 2 ou 3 années, quoi. Donc,
okay. Non, j'avais rarement ce problème-là. Mais en tout cas, voilà, c'était une période où on avait quand même facilement accès aux démos. C'était un des arguments marketing des magazines,
oui,
de l'époque, que ce soit sur PC comme sur console. Hein, les PlayStation Magazine faisaient ça également.
Ça et les clips musicaux douteux, oui.
Aussi, oui, c'est ça. Et justement à l'émergence du dématérialisé, à la fin de des magazines en tant que tel,
oui,
parce qu'il y a eu vraiment une vraie chute à ce niveau-là. Toute l'industrie de la presse jeux vidéo a connu beaucoup de bouleversements, mais c'est vraiment l'arrivée d'Internet qui a changé les règles. Et donc c'était la fin de ces CD de démos. Donc pendant pas mal de temps, la fin des démos tout court.
Et quasiment, là, j'allais dire ça aussi, la fin des démos.
De l'accès à des démos, en tout cas.
Oui, vu que en fait les jeux sortaient directement quand ils sortaient soit dans la presse, mais dans la presse plutôt en ligne. Et l'avènement de YouTube et d'autres sites de partage de vidéos ont permis en fait à pouvoir déjà en fait balancer du gameplay en vidéo aux gens,
et ouais,
et avec pas mal de boîtes se sont dit c'est suffisant en fait pour se faire une idée,
ouais, plutôt que de faire en sorte de
d'expérimenter par
ouais voilà mais surtout de faire une version démo. C'est quand même du boulot,
oui,
c'est quand même du boulot de prévoir une tranche en fait du jeu. Souvent c'est le tout début du jeu, le tutoriel ou ce genre de situation. J'ai, là encore une fois, dans cette édition du Steam Next Fest, j'ai essayé des jeux où ils te posent dans un moment du jeu, au milieu, en fait, d'une certaine façon, où ils te racontent, voilà, on est dans tel contexte, donc, etc. Mais voilà, c'est quand même fait du boulot de préparer une tranche du jeu limitée en temps, des fois, limitée en scope, avec du gameplay qui n'est pas implémenté, ce genre de choses. Donc c'est quand même pas rien, mais depuis quelques années, donc le Steam Next Fest, je crois que ça existe depuis quoi, 2021, 2020
ouais, ça fait au moins 3 ans en tout cas, hein, facilement.
Ouais, je crois, ouais. Et ça existait, les démos existaient déjà sur Steam depuis pas mal de temps, mais c'était pas, ça avait pas été mis en avant, que ce soit par Steam ou par finalement ceux qui faisaient les démos,
et
peu mis en avant.
J'ai envie de dire quand même aussi, les démos, on a beaucoup vu dans un premier temps, en fait, enfin, un des moteurs pour revoir des démos. Souvenez-vous peut-être d'un truc qui s'appelle Pity, qui en fait était un, en gros, qui était un projet un projet, c'était bah de Konami à la base, hein.
Ouais, je crois, ouais. Enfin, c'est de quoi, de, dans l'esprit Silent Hill.
Oui, voilà. C'était un truc dans l'esprit Silent Hill, un truc très mystérieux. Et en fait, c'était une démo. Courte, qui était disponible que sur PS4 à l'époque, et d'ailleurs qui n'est plus disponible aujourd'hui, et limite maintenant on vend les consoles avec le jeu installé dessus à un prix d'or, parce que c'est le seul moyen de récupérer cette démo. Mais bon, c'était vraiment très événementiel. Là où ça s'est plus développé, c'est à partir finalement de 2017 et de l'arrivée de la Switch. Au niveau de la Switch, en fait, qui avait son fameux e-shop, qui est bien bordélique comme il faut et tout, et un des moyens de se démarquer, c'était de proposer aussi des versions démo. Et qu'il y a eu pas mal de versions démo qui sont arrivées à ce moment-là, surtout que sur Switch, contrairement aux autres consoles, en fait, il y avait un côté, ils ont voulu ouvrir les vannes très fort à tout ce qui est indé. Ouais. Et que pour se démarquer à ce moment-là, en gros, vu que sur l'eShop c'est absolument pas modéré et que c'est la fête du slip, un des moyens, c'était, il y avait un truc où on pouvait dire je veux juste les logiciels gratuits, et parmi les logiciels gratuits, en fait, il y a les démos. Okay. Donc c'était un moyen de se démarquer, et ce qui fait que à partir
de d'apparaître dans ces recherches-là,
il y en a déjà qui étaient faites. Pour le coup, ça s'est prolongé via Steam et surtout le Steam Next Fest, enfin, qui a d'abord été le Steam Neo Fest, d'ailleurs.
Bah, en fait, non, Next et Neo, c'est deux noms pour la même chose. Je crois que Neo c'est en français et Next c'est en anglais, mais sinon, c'est la même chose.
Okay,
moi, je dis Next parce que j'utilise Steam en anglais, mais.
Ok. Voilà. C'est vrai que je voyais indifféremment les deux, mais pour moi, c'était. Ok.
Mais effectivement, sûrement. Oui, mais je pense que ça s'est, ça s'est propagé aussi sur Steam, tout simplement parce que de plus en plus, tu parles de 2017, on est déjà sur une période où les jeux sortaient sur Switch, mais également sur PC en même temps. Enfin, c'est les mêmes versions. Donc,
ils étaient sortis sur PC et après sont sortis sur Switch. Parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, à l'arrivée de la Switch, quand la Switch a dit pour l'instant, on n'a pas beaucoup de jeux, donc on ouvre les vannes à l'indie.
Mettez n'importe quoi.
Tu as vu que déjà, il y a tous les jeux indés plus assez connus. Qui se sont tout de suite lancés sur Switch et qui ont cherché à faire une version Switch. Ça arrivait assez vite, dans mon souvenir.
Mais du coup, tu proposes une démo de ton jeu sur Switch. Le boulot pour la proposer sur Steam est bien moindre déjà. Enfin, t'as déjà fait le boulot.
Oui.
Donc ça s'est développé aussi.
Il y a un travail non négligeable de portage quand même, mais oui. Voilà, on va dire que le travail de découpage est déjà fait, quoi.
Et du coup, oui, effectivement, ça fait quelques années qu'on est envahi, en fait, de démos, d'une certaine façon. Enfin, moi, c'est toujours un truc qui, ça m'arrive encore de lire, oui, aujourd'hui, on a du mal à avoir les démos, on a de la chance quand on en a, bref. On en a absolument partout, tout le tour du ventre. Même au point que, dans les premiers Next Fest, c'était l'inverse. Le message
qu'on disait.
Non, le message qu'on disait, c'était, il y a trop de démos, il y a 800, 600, 900 démos, on n'aura jamais le temps de tout faire.
Là, il y a 6000.
Ouais, mais
sur cette période-là, il y en a eu 6000, un truc comme ça.
Sans doute. Ça m'étonne même pas, mais parce que le projet, ça a jamais été de toutes les faire, en fait. Enfin, je sais pas qui pète un câble, à part des journalistes, finalement, qui veulent absolument tout voir et qui ont besoin de ça pour...
Celle d'Elle et Atomium, probablement.
En gros, mais j'ai entendu ça de la part de pas mal de gens, des streamers, des gens de trucs, enfin, tu vois, il y en a trop, c'est n'importe quoi, on n'arrive pas à tout faire, à choisir.
Mais il faut pas tout faire, de toute façon.
De toute façon.
Déjà, vous éliminez... Je dirais 500 démos de jeux de cul.
Pas loin.
Pour commencer.
Pas loin. Et après, ça peut être ton audience. Hein,
oui, voilà. Ouais.
Mais en attendant, oui, de toute façon, il y a déjà beaucoup trop. Et ça, c'est sans compter celles qui sont, comme tu le disais tout à l'heure, dispo depuis longtemps avant.
Et qui sont relancées.
Et qui sont relancées, ou qui n'ont jamais été finalement coupées, qu'en fait, qui viennent s'intégrer au Fest en disant « Regardez, on existe, machin. » Celles qui vont rester, celles qui sont vraiment apparues pour le Fest, mais qui vont rester disponibles ensuite, parce que le festival durait officiellement du 11 au 18.
C'est ça, hein? Du 14 au 21.
Pardon. Ok, je suis décalé. Oui, j'ai parlé du vendredi au vendredi.
Alors, on sent qu'il a préparé l'émission. Hein.
Ah, mais complètement. Complètement. Moi, au point que j'ai même pas lu un calendrier.
C'est quand même pas mal. C'est beau le professionnel.
C'est ça.
Incroyable.
Bon, on est le 32 octobre, tout va bien. Bon. Et donc.
L'escroc.
Tout à fait. Mais toujours est-il que voilà, ça dure une semaine officiellement. Mais la plupart des démos, une bonne partie, sortent dans la semaine qui précède pour justement commencer un petit peu à prendre l'attraction des streamers aussi notamment, des youtubeurs, etc., qui proposent du contenu par rapport aux démos, qui font un pré-Next Fest d'une certaine façon. Et puis, il y en a certaines qui sont toujours disponibles alors qu'elles sont effectivement arrivées le 14 pour continuer finalement à brasser un peu de gens. On va dire une pratique relativement courante, c'est quand tu proposes une démo, c'est de la rendre disponible jusqu'à la sortie du jeu. Je vois ça relativement souvent, en fait, la démo qui n'est plus disponible au moment où le jeu sort.
Oui.
Parce que son objectif est rempli, en fait. Faire connaître le produit, je peux le comprendre. Et en même temps, ce qui arrive aussi, ce que j'ai vu constater plusieurs fois également, c'est la démo était dispo avant, le jeu sort, et puis quelques semaines après la sortie, la démo revient.
Pour recréer
l'attraction, en fait, sur le produit, quoi.
Oui, une fois que les premiers qui étaient très convaincus sont là.
Voilà. Tu remets une pièce dans la machine en même temps qu'une solde, par exemple. Ça marche pas mal. Parce que tu te dis, OK, tiens, ce jeu, il est à moins 50% ou à moins 60%, qu'est-ce que ça vaut? Et du coup, tu lances la démo et tu te dis, OK, ça vaut le coup, ça m'intéresse, c'est le genre de jeu qui est bien pour moi. Si en plus de ça il y a une promo dessus en même temps, c'est une pratique marketing qui a déjà fait ses preuves, mais encore une fois qui est parfois conjoncturelle, qui est très liée aux périodes autour des Next Fest. C'est pas que tu vends pas, c'est que c'est pas le moment, en fait, t'es pas là pour ça.
Oui, tout à l'heure je reviendrai sur un jeu justement qui a communiqué par rapport à cette disponibilité de démo, et c'est assez intéressant aussi. Ce qu'il faut de manière aussi, ce qu'il faut voir, c'est que alors je l'ai moins vu peut-être parce que ça concernait pas les jeux que je suivais, mais je sais que lors du dernier Next Fest qui avait eu lieu en juin, il y en avait.
Oui.
Oui, le Next Fest, le fameux Next Fest de juin, celui de l'E3, là.
D'accord, il y en a eu en février, ça c'est sûr.
Là, celui de l'E3, de toute façon, à chaque fois, après l'E3, ils en font toujours.
D'accord. Le budget d'attente.
En fait, pendant le summer machin, là,
oui.
Ils font toujours un truc, y a toujours un round de démos à aller chercher, tout ça. Et je me souviens qu'il y avait pas mal de jeux qui avaient joué la carte de je sors à ce moment-là, en fait. Je profite de l'exposition pour sortir à ce moment-là aussi.
Ouais, c'est une tactique qui peut se.
J'ai moins vu cette fois-ci.
Oui, non, c'est vrai. Et puis même, ça a été une semaine, là, ça s'est un petit peu justement énervé cette semaine, je trouve, en termes de sortie.
Oui.
Des sorties qui ont un début d'intérêt par rapport à la semaine dernière où tu sens que c'était pas le focus, c'était pas là-dessus, c'était pas sur les nouveaux
c'est
jeux.
C'est vrai que si tu veux, on parle de Unknown 9, mais ça sera une autre fois. Mais
oh, il y a des choses à dire.
Il y a des choses à dire, mais une autre fois.
Oui.
Parce qu'il n'y avait pas de démo.
Oh, je pense que ça n'aurait pas suffi. Mais parce que il avait quand même pas de bol, ce jeu. Il aurait pu être bien, hein.
En 2005, ouais.
Voilà, en fait, ça aurait été bien qu'il soit bien. Ça aurait permis que soit qu'il crache dessus, voilà.
Oui, mais non.
Et moi,
en même temps, je suis désolé, de ce que j'en ai vu.
Non, c'est pas.
Il y a l'air tout pourri, quand même, hein. On va pas se mentir.
Non, c'est décevant. Ouais. C'est pour ça que. Bref. Mais c'était pas le sujet.
Parlons plutôt de jeux qu'on a pu expérimenter pendant ce Steam Next Fest.
Oui.
Je vais pas être assez salaud pour te lancer vu que t'as rien préparé.
Non, mais j'en ai quelques-unes en tête.
Écoute, je vais commencer par un de tes sujets préférés. Un jeu full IA.
Ah, mais oui, mais t'as pas de face. T'as aucune race. Vas-y, vas-y.
Je vais vous parler de Escape Everlit, un jeu du studio Lentaus Studio. D'ailleurs, Lentaus Studio, qui, selon son compte Twitter, est basé à Seattle, mais qui ne communique que en chinois.
Bah quoi, les migrants, ça te dérange ?
Très bien, alors le jeu. Très bien, alors le jeu. Non, mais alors pour le coup. Alors en fait, c'est plutôt très étonnant par rapport à la communication du jeu qui fait tout pour communiquer uniquement sur le territoire, sur les territoires chinois,
asiatiques en général.
Et asiatiques en général. Ouais. Il y a une version anglaise pour le coup. La traduction anglaise, elle est.
Bah, elle est faite par IA ?
Attends, je chauffe. Parce que si, il y a que la traduction, mon gars.
Putain. Oui, non, mais vu le reste, au moins la traduction, c'est forcément, je veux dire.
Si, avec la traduction.
Évidemment que la traduction doit l'être.
Oui. Donc, le principe du jeu, c'est que c'est un jeu plutôt entre visual novel et enquête. Et pour résumer en fait le principe, c'est que à la base on suit un jeune homme qui rentre dans un grand bâtiment qui s'appelle du coup le Everlit Building, et qui dans des circonstances qui sont inconnues se retrouve transporté dans une maison, une maison qui est sur une sorte d'île déserte au milieu de nulle part. Et il n'est pas tout seul, vu qu'il y a aussi avec lui une jeune femme, une jeune fille, oui, et ce que les autres considèrent comme un vieux, c'est-à-dire un type de 45 ans.
D'accord. Donc on va arrêter là, hein, tout de suite, on va aller se coucher, nous les vieux.
Ça m'a beaucoup fait rire.
Ouais.
Ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est vraiment le vieux sage, il a 45 piges.
Ok.
C'était drôle. Voilà. Et en fait, en gros, c'est plutôt un jeu d'enquête pour essayer de déterminer pourquoi les gens se retrouvent là, comment ils se sont retrouvés là, est-ce qu'il y a un secret, etc. Cette maison-là a l'air d'avoir quelques caractéristiques avec des technologies qui ne sont tout paraît très classique sauf quelques caractéristiques particulières. Genre, par exemple, il y a un lecteur de vinyle en fait qui permet de balancer de la musique que dans un rayon extrêmement limité. C'est-à-dire quand t'es à côté, tu entends plein la musique. Dès que tu t'écartes de quelques centimètres, en fait, t'entends plus rien.
D'accord.
Enfin, c'est, tu dis bon, bah, ok, il y a peut-être quelques, c'est peut-être un trick, je sais pas comment ils ont fait, mais voilà. Mais tu dis, il y a deux trois trucs un peu particuliers comme ça, le fait que il y a pas l'air d'avoir de faune sur l'île en question, bon, c'est particulier, ok.
Bah, c'est après la grande extinction, enfin, c'est notre avenir, qu'est-ce qui.
C'est en Chine et c'est sur une île au large de la Chine.
Oui, voilà. Donc, c'était l'île des dodos.
voilà, c'est ça.
Bon, bah forcément, il n'y a plus rien.
Et par contre, l'aventure commence à vraiment être intéressante lorsque quelqu'un dort, si un autre s'en approche d'un peu trop près, il va rentrer dans les rêves de l'autre, de celui qui dort.
Mm-hmm.
Et là, tu dis, tiens.
C'est de plus en plus compliqué ton truc.
Ouais. Ah non, mais c'est compliqué, ouais. Mais et en fait le truc qui lie les tous, c'est qu'ils ont tous eu une sorte de trauma, et en fait le rêve en question, c'est que chacun revit ses traumas. Mm-hmm. Et ça va permettre à chacun de
Est-ce qu'il y a un truc un petit peu dans l'esprit If on Winter's Night for Travelers,
j'allais dire. Si seulement c'était aussi bien écrit.
Okay.
Peut-être pas déconné non plus.
Non, mais je sais.
Mais dans l'idée, par contre, oui. C'est ce qui m'a attiré dans l'histoire, en
D'accord.
fait. Ce côté. Alors, dans If on the Winter Night, en fait, c'est chacun son rêve, entre guillemets.
Ouais.
Enfin, chacun son déroulé, on va dire.
Ouais.
Pas dire un rêve. Chacun son déroulé. Là, c'est un côté un peu inter-rêve, inter-histoire.
Ouais, on a chacun notre histoire, mais dans le même rêve.
Ouais, mais justement, c'est pas forcément. Et là, pour l'instant, dans la démo, on a accédé à un seul rêve.
Mm-hmm.
Je sais pas si dans l'histoire, on pourra D'accord. accéder aussi au rêve des autres, vu qu'a priori, le point commun, il semble avoir aussi être autour d'un certain trauma, mais je sais pas lequel pour les autres, et donc ça paraît assez intéressant. Donc c'est pour ça qu'en fait, en termes de mécanique et en termes de ce que ça peut raconter, le jeu me paraissait cool.
Ok.
Le jeu me paraît toujours cool. Sauf que, il est full IA. Et quand je dis full IA, C'est fou l'IA. Les dessins des personnages, c'est-à-dire en fait, ils se présentent comme un visual novel, c'est-à-dire qu'on va voir des personnages à l'écran et que quand ils parlent, on va voir leurs portraits. Mmh. Tous les portraits, c'est Uncanny Valley Land.
Oui. Ça me rappelle une question d'un quiz. Voilà. Je sais pas pourquoi.
C'est Uncanny Valley Land. Pour faire simple, c'est que c'est des portraits qu'ils ont fait par IA. Ils ont l'air humains, mais pas humains. Mmh. Et ça fait très très bizarre. Okay. Ça, mais bon, ça c'est le premier truc qu'on remarque, notamment lorsque sans jouer à la démo, lorsqu'on voit les différents.
Les images du jeu.
Les différentes images du jeu, c'est ce qu'on remarque en premier. Sauf que, et quand on s'intéresse d'un peu plus près, en fait, déjà, en fait, la démo est longue, elle fait bien 1h30, 2h quand même, donc il y a beaucoup de contenu.
Ouais.
Lantau Studio, en fait, c'est solo dev.
Okay.
Donc, soit c'est quelqu'un soit c'est quelqu'un.
C'est solo IA, hein,
c'est solo dev. Donc, okay. Soit c'est quelqu'un qui bosse dessus depuis des années.
Oui, oui.
Soit c'est quelqu'un qui s'est fait aider.
Par une IA?
Je dirais même plusieurs, mais
voilà,
je dirais même plusieurs, parce qu'il n'y a pas que les. Évidemment, ben monsieur, je pense pas que la personne s'est dessinée vu que elle est allée voir son meilleur mid-journée pour faire ses.
Pour tout faire en fait.
Pour à peu près. Non, pour faire la partie graphique en tout cas.
Oui, mais animation aussi j'imagine.
Ah, ouais. Alors l'animation non fait l'animation pour le coup elle fait très. Tu prends un moteur relativement classique. Bon, peut-être pas Aventure Studio, quoi, mais Aventure Game Studio, mais tu prends un moteur relativement classique. Tous les personnages sont sur 2 ou 3 frames, c'est-à-dire en gros une pour la tête, une pour le corps et une pour le bas du corps globalement. Et ça s'anime. Donc, je suis pas sûr que ce soit fait par IA, mais en tout cas, c'est un moteur plutôt classique. C'est pas fou le. Parce que souvent, par IA, en fait, tu vois les transitions un peu bizarres, ce genre de truc. Et ça, pour le coup, je l'ai pas vu dans l'animation.
D'accord.
Donc, peut-être que c'est un type, pour le coup, qui a fonctionné uniquement sur le moteur du studio. Par contre, clairement, en fait, quand tu vas voir sur Steam et que tu dis. Et que
t'auras
Steam,
des images, ouais.
En fait, et puis surtout, Steam, mais quand les gens utilisent de l'IA, en fait.
Ils sont censés le dire.
Ils sont censés le dire. Pour le coup, dans la démo, ils sont très transparents.
Okay.
Ils disent on a utilisé l'IA pour les.
Pour les graphismes,
pour la musique.
Ok.
Il a pas dit pour le texte. D'accord. Pourtant, je soupçonne.
Bah en même temps, bon, si c'est une traduction un petit peu approximative d'une langue différente, ça, des fois, ça peut sonner
c'est
très
vrai
faux.
Ouais, c'est ça. C'est ce que je me dis. Peut-être que la trad a été automatisée, quoi.
Ouais,
notamment, en fait, il y a certains textes où des fois, les personnes deviennent tout d'un coup Wikipédia.
D'accord.
Enfin, très très précis sur un sujet particulier et pas naturel. Enfin, c'est pas la manière dont les gens parlent.
Okay.
Et je me dis tiens, c'est quand même un peu particulier. Après, de manière générale, je trouvais pas ça entre guillemets mal écrit.
D'accord.
C'est juste écrit de façon.
Ouais, c'est juste les tournures de phrases.
C'est juste les tournures de phrases qui sont. Voilà. Comme je te dis, j'ai réussi à être embarqué par l'histoire. Ça veut dire que c'était pas fou le ChatGPT. Le prompt, c'est raconte-moi une histoire de science-fiction ChatGPT. Tu vois.
Okay.
Ce qui est possible, par contre, c'est que lui, il avait des textes et des, il voulait faire des textes, faire dire des textes à des gens et qu'il a utilisé un ChatGPT ou un truc équivalent pour écrire de façon plus naturelle avec des gros guillemets certains discours, quoi.
Ok.
Donc voilà.
Comment ça s'appelle, tu dis?
Ça s'appelle Escape Everlit.
Okay.
Honnêtement, moi, je vais suivre le truc, sachant que c'est, alors c'est pas, pour l'instant, c'est un truc full indépendant. Peut-être que ça sortira jamais, on verra bien. Mais disons que, au-delà du côté full IA et je sais pas sur quoi il a et personne ne sait sur quoi il s'est entraîné et à qui il a piqué ça et à qui il a déclaré. Déjà, le fait que sur Steam, il a dit bonjour, j'utilisais l'IA pour faire ça. Ce qui n'est pas le cas de tous les.
Non.
Ce qui est très, très, très loin
d'être. Toujours même de certains gros trucs. Hein.
Ouais, ouais.
J'ai des exemples assez marqués de gros trucs où ça se voit qu'ils ont utilisé l'IA.
Moi, c'est ce qui me fait dire que. Ok, peut-être que le jeu sera moyen, plus, etc. Ouais. Mais. Ok, intéressé, quoi.
Ok. Du coup, moi, ça va être pas du tout de l'indé.
Oui.
Parce que c'est un jeu qui, depuis très récemment, en fait, on a appris ça très récemment.
Call of Black Ops 6.
Non, pas celui-là. Delta Force. Non, pardon.
Oh là là, ils vont se avec celui-là aussi.
Ouais,
il est partout.
Un autre qui était partout.
Ouais.
Et qui sera The Precinct. Qui sera édité via une société créée pour l'occasion par Microïd.
Oui. Ah oui, je reparlais de Microïd tout à l'heure.
Oui, voilà, parce que Microïd, c'est. En général, dans le jeu vidéo récent, quand tu vois Microids, c'est pas une bonne nouvelle. Je veux pas être méchant, hein, mais globalement, c'est quand même bien dégueu.
Dans le jeu vidéo des années 2000, c'était déjà pas bonne.
Non, mais voilà, mais
c'était
ça c'est
déjà pas ouf. Hein,
aujourd'hui, c'est quand même, enfin, c'est le dernier Tintin. Hein, c'est eux qui ont flingué ton pendulo avec le dernier Tintin.
Mais d'ailleurs, c'est très étonnant que Microids ait une démo qui soit peut-être la deuxième ou la troisième la plus téléchargée, plus utilisée.
Je pense vraiment qu'il y avait eu, tu vois, le truc était prévu, le jeu existait, et puis ils sont effectivement. Je dis, ils ont créé une boîte en partenariat qui s'appelle Quali, spécifiquement pour éditer ce jeu. Pour l'instant, c'est le seul jeu que...
Comment t'écris Quali ?
K-W-A-L-2-E. Quali. Bref, The Precinct. The Precinct, c'est un jeu en fait, où on va jouer la police. On va jouer un jeune rookie donc, dans un commissariat américain, dans une ville fictive dans les années 80. Où en fait on est donc le petit nouveau du commissariat et
on va pouvoir tuer des démocrates et des noirs, non?
Alors attends, c'est que la démo. C'était le tuto, mais je pense que c'est un peu après, je pense. Mais,
est-ce qu'à un moment on peut quitter la police et envahir le Capitole?
Alors le chef du commissariat, il est noir. Hein, on est vraiment dans les clichés des années 80 des films de police. Vraiment, c'est-à-dire que t'as le petit nouveau qui se fait limite bully par ceux qui étaient là depuis avant, qui se foutent de sa gueule. T'as ceux qui savent que son père c'était un ancien commissaire de police et qui a été tué. On sait juste qu'il est mort, on sait pas exactement comment, mais t'as des gens qui sont là, ah oui, c'était ton père, machin,
je crois
c'était
que un bon film. Dans les années 80.
Voilà, mais t'es vraiment là-dedans, c'est-à-dire que t'es dans le cliché à fond avec effectivement le commissaire qui arrive à la fin et qui dit, ah, fermez vos gueules, son père, c'était peut-être un ancien flic, mais ici, on est tous égaux et on va tous être jugés par rapport à ce qu'on fait et pas par rapport au passé de notre famille ou ce que tu veux. Bref. On est vraiment dans cette logique-là, et donc dans le jeu, en fait, la démo présente vraiment le tuto, donc la présentation du gameplay, où on va accompagné par un vieux de la vieille, vraiment le flic en mode caricature de celui qui a pas envie d'être là, enfin que ça fait chier, qui fait le minimum.
Mais c'est présenté comme un GTA ?
Alors d'une certaine façon, oui, mais les vieux, hein, GTA, vu du dessus.
Ah, vu du dessus, donc GTA 1 et 2, quoi.
En vue à l'isométrique, quoi. En vue du dessus.
1 et 2, c'était vraiment du dessus.
Oui, dessus.
Hein.
Oui, ouais. Donc là, on est. Enfin. Ouais, c'est quand même un petit peu. Enfin, je dirais, syndiqué des années 90. Un petit peu dans cet esprit-là, sauf qu'on peut faire tourner la caméra. Donc on peut quand même. Voilà. Enfin, donc, voilà, on voit le personnage par-dessus. Donc au tout début, on accompagne notre formateur, j'ai envie de dire. Évidemment, hein, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose qu'on fait, c'est prendre la bagnole pour aller acheter un hot dog. Voilà, on est dans les clichés.
J'allais dire donuts.
Ça aurait pu, mais non.
Parce que le matin, c'est donuts.
Non, mais là, c'est pas le matin, visiblement. Donc bon. Et puis, évidemment, on est en train de manger le truc, et puis d'un coup, la radio, elle appelle, il y a un braquage, il faut y aller, donc on se met à tirer sur des gens qui sortent de la banque, et puis après, on prend la voiture pour courser ceux qui avaient pris une bagnole pour se barrer. Enfin, voilà. On est vraiment dans cette logique-là, et effectivement, il y a un côté très GTA, jeu d'action.
T'es vraiment en train de me décrire mafia, mais dans le rôle de la police, quoi.
Mais d'une certaine façon, ouais, il y a un peu ce côté-là aussi.
Je parle pas du jeu. Pour le coup, moi, j'étais. GTA, parce que GTA a le côté très...
T'as le côté open world...
très aussi n'importe quoi, en fait. Enfin, si t'as envie de faire n'importe quoi, tu peux...
Alors là, pas tant, visiblement, mais...
Ce qui était moins le cas dans les mafias, tu vois.
Oui, mais c'est beaucoup plus sur des rails.
C'est pour ça que je pensais plus à mafia dans ta description.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, c'est effectivement une des démos qui a le plus intéressé les gens. Il y a une bonne demi-heure de gameplay. Pour moi, c'est pas inintéressant à jouer, en soi. Mais la façon dont c'est posé, dont le décor est posé, c'est voilà, on va courser en bagnole des criminels, et puis après le lendemain matin, on va aller mettre des amendes aux bagnoles qui sont mal garées, et puis à la fin, vu que visiblement on sort de l'école de police, et tous ceux qui sortent de l'école de police, ils ont leur brevet d'hélicoptère dans la poche, donc on prend l'hélicoptère de la police pour courser des voitures sur le périph.
Mais dis-le, Simpson. Non, mais je sais, ton problème, c'est que t'as pas envie de faire un travail de police, c'est ça, en fait.
Non, c'est pas ça, c'est que je vois simplement les ficelles utilisées en termes scénaristiques. Elles sont peut-être liées au fait que ce soit le tutoriel, c'est possible, tu vois, pour te poser un petit peu le contexte, la situation. Mais pour moi, il y a vraiment... C'est presque trop, tu vois, le côté trop cliché.
Ouais.
Mais le jeu est pas désagréable à jouer pour autant. Okay. Les phases où il faut se taper, où il faut taper sur des mecs qui font des graffitis, parce que bon, on reste la police, hein, c'est quand même, ce serait quand même dommage de pas profiter un petit peu de l'usage de l'usage légitime de la violence.
Quand tu me parles comme ça, j'ai envie de rejouer à Jet Set Radio, vois-tu?
Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Sauf que de l'autre côté, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Avec la tonfa.
C'est marrant, les meilleurs jeux, c'est de l'autre côté.
Ah, souvent.
C'est fou, hein.
Voilà. Mais bref, mais ces phases-là sont pas les plus réussies en termes de sensations, okay, on va dire. Mais voilà, le jeu est pas moche, il est pas magnifique non plus. Il y a un truc qui peut valoir le coup. À voir si on sort un petit peu de ça, et presque au niveau des petites interactions, tu sais, entre les différents flics, les petites phrases qui sont lâchées sur le fait que le père du personnage qu'on joue est décédé. T'es, limite tu le sens déjà venir que en fait lui il voulait nettoyer la ville, mais que des mafieux qui aujourd'hui ont des postes à responsabilité, ils sont rangés, tu vois, mais ils tirent encore les ficelles par derrière du crime, et ils se sont associés avec des flics véreux, et c'est eux qui ont fait ton père.
C'est vrai que moi je préférais justement que en fait c'était un vrai pourri.
T'as
aussi l'autre version où, ouais, en gros, c'est un vrai pourri, avec le vieux mentor qui t'explique, tu savais pas comment c'était New York à cette époque-là.
Alors ne juge pas, d'accord.
Tu vois ce que je veux dire?
C'est pas ce qu'il fallait faire pour survivre.
Ça aussi entendu, hein, ce genre de...
Non, bien sûr. Bien sûr. C'est pas faux. Voilà. Mais en tout cas, la demi-heure que dure la démo, est passée toute seule. Déjà, ça, c'est quand même un relativement bon point. Voilà, j'ai les réserves que je viens d'émettre, mais c'est pas inintéressant.
Tu contrôles ton personnage que quand il est en véhicule, mais aussi à pied?
Non, à pied aussi.
D'accord.
À pied aussi, ouais. Ouais, tu contrôles tout le temps, en fait.
D'accord, ok.
Voilà.
Bah, très bien. Donc, moi, je vais plutôt parler d'un jeu où, pour le coup, tu es tout le temps en véhicule.
Mm-hmm.
Un jeu qui s'appelle Keep Driving.
Ah, oui. Je l'ai fait aussi.
C'est bien, on va pouvoir en parler. Un jeu, en fait, de YCGY Games, un jeu donc suédois.
Ok.
Voilà. Où le principe, c'est un. Je pense que ça. Alors, j'allais dire, c'est un rogue. Je suis pas certain.
Je serais très
étonné que ce soit pas ça.
Non, ça peut être. C'est une forme de rogue. Voilà. Rogue light.
En tout cas, où, en fait, on va jouer un petit con.
Globalement.
On va jouer un petit con.
Bah, un adolescent, quoi.
Ouais.
Bah, un adolescent américain.
Un adolescent avec plus de 16 ans, vu qu'il a le droit de conduire aux États-Unis.
Mais un adolescent américain, donc voilà. Il a le droit de conduire, effectivement. Et visiblement, il a le droit de boire, parce que...
Ah, donc un peu plus de 18 aussi. Oui, c'est vrai
21,
que...
21.
Oh
bah, en tout cas, moi, dans ma partie, il pouvait boire, hein. Il pouvait acheter de la bière.
Alors, attends.
Une chose à la fois.
Une chose à la fois.
Qu'est-ce qu'il fait, ce petit con?
En tout cas, c'est un petit con qui vit chez ses parents.
Oui.
Voilà. Donc déjà, petit con.
Oui, alors après, effectivement, 16-18, c'est pas étonnant.
D'accord, mais si tu me dis qu'il a le droit de boire et qu'il a 21 ans, il n'y a pas rien à foutre.
Voilà. Il me semble que c'est national, ça, 21 aux États-Unis.
En tout cas, le principe, c'est que on va jouer ce petit con et on doit aller rejoindre un pote pour jouer à des jeux vidéo. Tout le week-end.
Très bien. On n'a absolument pas vécu ça dans notre vie du tout, jamais.
Écoute, le seul truc que je trouve pas réaliste dans le jeu, c'est que normalement, moi, j'avais l'écran et l'ordi dans le.
Eh oui.
Dans le coffre. Mais sinon.
Mais non, mais il va jouer sur une console.
Ouais, c'est vrai.
Il part avec la cartouche.
Oui, c'est vrai. Il part avec la cartouche.
Cartouche de Super NES, clairement.
C'est vrai que l'ambiance, elle est très années 90.
Oui.
Alors,
oui.
Bon, allez. On reprend. En fait, on est un petit con.
Il joue sur console, donc forcément.
On est sur console et on veut jouer un jeu vidéo avec son pote, sauf que le pote en question, il est à...
Ah oui, il habite à l'autre bout de l'État.
Hein. Il habite à
500 bornes, c'est pas possible. Tu mets 2 jours, c'est n'importe quoi. Enfin, ouais.
Alors, justement, t'as moins de 2 jours pour arriver jusque là-bas, je crois.
Oui, en fait, tu pars le jeudi et il faut arriver avant le dimanche parce que sinon, tu dois repartir et il faut quand même que t'aies le temps de jouer. Enfin,
Ouais. Donc, en gros, t'as 3 jours pour arriver jusque là-bas, ce qui est...
Bah c'est ça, c'est un peu fou, quoi.
En gros, c'est comme si tu dis « Ah, j'habite à Lille et mon pote,
Il habite à Naples, en fait. Parce que tu dis à Marseille, il vient de la fin de la journée.
Non, mais pour le coup, j'allais dire Séville, mais oui, c'est un peu l'esprit, tu vois. C'est... Bon, ben, j'y vais.
Oui, voilà. Allez, salut, voilà. À lundi. Voilà.
Et le truc, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, c'est que ce serait un jeu de conduite. Mmh. Absolument pas. C'est pas un jeu où on va te demander des skills de conduite ou de quoi que ce soit. C'est un jeu en fait qui est tout en pixel art, qui est vu de côté. Et en fait, le choix de la route, en fait, il se fait en amont. À chaque fois, en fait, tu vas dire, je vais en fait pour par aller,
étape,
pour aller jusqu'au bout, je vais passer par une étape. Et en fait, c'est toi qui choisis l'étape en question. Une fois que t'es à l'étape, tu vas choisir la prochaine étape, etc., etc., etc. Mmh. Et c'est les seuls moments où tu vas décider de la direction. Entre temps, ce qui va se passer, en fait, c'est en gros des mécaniques de RPG, c'est-à-dire que tu vas avoir des combats aléatoires, en fait.
Ouais. Alors, des problèmes à gérer, mais
ils appellent ça des rencontres globalement, mais c'est comme si c'était des combats aléatoires parce qu'en fait tu as un système où lorsque tu as des événements, il faut que tu les gères. Lorsqu'il y a des événements qui se passent sur la route, ça va te gérer certains types de stress, que ça soit du stress mental, que ça soit des dégâts sur la voiture, que ça soit des dégâts que ça va te faire consommer plus d'essence ou ce genre de choses. Et en fait, là, en fait, tu as un système de cartes, en fait, de jeu de cartes qui va te permettre de résoudre ces problèmes-là. Mmh. Et c'est là que j'ai trouvé plutôt le jeu assez malin dans sa manière de faire et plutôt intéressant. Parce que, comme je dis, vu de loin, enfin, quand tu réfléchis, oui, c'est des combats aléatoires, mais c'est absolument maquillé comme juste des événements et tu les ressens pas comme ça.
Oui. Je trouve que c'est un tout petit peu trop gamifié, d'une certaine façon, parce que t'as le côté... en fait, tu vas, par exemple, rencontrer... Bah, il pleut beaucoup. Oui. Et du coup, l'eau, la route, elle est glissante, machin. Et si tu gères mal la rencontre, bah, tu peux aller jusqu'à perdre... que la voiture, elle s'abîme complètement, en fait. Et tu peux, toi, te monter le stress jusqu'au max... Hein. Tu vois ce que je veux dire, enfin, juste
oui,
pour
mais,
ça,
oui, mais
guillemets.
En fait, je pense que ça fait, en fait, peux... je pense que ça fait partie de la gestion que des fois, en fait, il y a un événement qui arrive et il faut te dire, en fait, le jeu te le dit pas, mais globalement, il faut se dire, non, il faut que tu fonces. Tant pis, tu prends tous les malus parce que t'en prendras encore plus si tu restes.
Oui, effectivement.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, vaut mieux que tu partes.
Mais
le
c'est
plus
une option
possible.
Que tu prends très rarement parce que c'est la démo, tu veux expérimenter.
Et qu'au début, t'as les moyens de survivre.
Et tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, c'est plutôt ça, en fait. Il y a des, je pense que c'est une partie de gestion qu'on n'a pas encore, c'est de la méta qu'on n'a pas encore du jeu. Mais, en tout cas, moi, je trouvais ça vachement intéressant. Je trouve que l'ambiance est incroyable. Ouais. C'est vraiment très années 90, cette musique rock, grunge, indé, qui
c'est
marche
ça.
Super bien.
Ouais.
On peut retrouver vraiment, des autostoppeurs qu'on ne retrouve que dans les clips des années 90.
Aussi, oui, tout à fait.
Voilà.
Tu l'as vu aussi, la fille là, qui fout des dégâts
oui.
Et puis qui a de la bœuf.
Oui,
bref.
Oui, je l'ai vu, ouais. Mm. Oui. Et qui a pas de nom, elle a juste un surnom.
Voilà. Et puis après,
t'as le
guitariste avec son chat.
Ouais, t'en as plutôt pas mal. Et en fait, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Je trouve que il y a deux trucs par contre qui m'ont gêné dans le jeu. La première chose, c'est que le jeu n'aime pas expliquer ses mécaniques et que donc on passe son temps à les découvrir. Alors, pour le coup, c'est très années 90. Hein, c'est démerde-toi. Enfin, il y a deux trois trucs qui sont expliqués au tout début et après c'est vraiment démerde-toi. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mécaniques, notamment ce que tu peux trouver dans les magasins. Comment tu dois gérer ton coffre, comment tu dois gérer aussi les gens que tu peux mettre à l'arrière ou avec toi, comment tu peux gérer, comment ils peuvent t'apporter des choses, comment tu les fais augmenter de niveau potentiellement, et tout ça.
Moi, j'allais dire aussi comment tu installes de l'équipement sur la voiture.
Oui, aussi. Ouais.
Ça, j'ai toujours pas trouvé. Hein,
bref. c'est dans la partie upgrade de la voiture.
Oui.
Quand t'es dans le truc.
Voilà, mais j'ai pas trouvé.
D'accord. Okay.
Ça marche pas. Bref.
Et non, mais voilà. En fait, je pense qu'il y a des mécanismes qui sont pas vraiment très bien expliqués. Et le deuxième truc, c'est que, alors je sais pas si ça vient des mécanismes très expliqués, mais le jeu est, il te botte les fesses. Hein, il est méchant.
Bah surtout qu'au début, t'as l'impression que ça va aller.
Le palier de difficulté, il fait très très mal.
Tu le sens pas bien.
Il fait vraiment mal là-dessus. Donc après, voilà. Mais sinon, Globalement, le jeu, visuellement, il est super cool. L'ambiance, elle est super. Et du coup, je parlais aussi de communication. Là, par exemple, ils ont dit sur Twitter que ils avaient prévu d'arrêter le 21, mais vu que ça a bien marché, ils prolongent la période dans laquelle
la démo est disponible.
La démo est disponible, sachant que pendant la semaine, ils ont fait des patchs pour améliorer la démo. Et que là, c'est juste qu'ils ont dit on la laisse encore quelques jours, mais par contre, on va moins bourriner sur les patchs pour se concentrer sur le jeu.
C'est une bonne idée.
Voilà. Mais l'avantage, c'est que pour le coup, ça a eu pas mal de succès. Enfin, c'était pas dans les 20 premiers, hein, pour le coup, mais c'était pas mal de succès
quand même.
Mais quand même
dans les plus loués.
Mais par contre, quand tu vois dans les. Quand tu vas notamment sur leur forum, il y a quand même beaucoup de réponses, beaucoup de.
Ouais, de l'activité. Ouais.
Beaucoup d'activité. Et ça, c'est une bonne chose parce que ce qu'il leur faut, c'est des feedbacks.
Ouais.
Des retours pour améliorer le jeu. Et c'est cool.
Et je serais pas surpris qu'effectivement, dans quelques jours, il y ait des articles d'analyse un petit peu des jeux qui ont. Profiter de la démo, enfin que dont la démo a servi à accumuler des listes de souhaits, c'est-à-dire que les gens ont mis le jeu en liste d'attente pour quand ils sortent. Je serais pas étonné que.
D'un point de vue, alors il y a des jeux que j'ai plus aimé que celui-là, mais je trouve que d'un point de vue proposition de gameplay et de mécanique, c'est le plus intéressant.
Ok. Alors moi je vais parler d'un jeu. Quand je l'avais vu, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ensuite, j'ai vu que le créateur de Balatro l'avait plébiscité.
Ouais, enfin bon, Balatro, merci bien, quoi. Ça va, les gars, c'est un gars qui sait pas jouer au poker, merci bien, quoi.
C'est ça, et du coup, il triche. Et du coup, c'est un peu la même logique, sauf que. Donc, on est vraiment dans un roguelike. Mais tu connais le pachinko?
Oui, je sais que ça a brisé des couples et des vies, globalement.
Comme le poker. Oui. Tu vois, il y a un lien.
ça me donne pas envie. Mais
alors, en fait, le principe, donc, c'est qu'on fait tomber une boule, hein, la plupart du temps, ou un disque.
C'est une sorte qui est censée être un jeu de hasard, en tout cas.
Voilà. Et en fait, on fait tomber donc je crois que la plupart du temps, c'est un disque, hein, sur un truc un peu plat.
Oui, c'est ça. Un disque, et en gros, il y a des picots un peu partout.
Voilà.
Et puis ça rebondit sur les picots.
Et ça fait
jusqu'à tomber jusqu'à
une des sorties, en fait.
Une des sorties. Et selon les sorties, apporte des récompenses différentes.
Voilà. Et donc là, en fait, on est un petit peu dans cette logique-là. C'est-à-dire que tout commence par quelque chose qui tombe du haut du plateau. Et qui ensuite, on va habiller le plateau entre les picots dont tu parles, en mettant des éléments, par exemple un champignon pour faire rebondir. Alors, la plupart du temps, ce jeu qui s'appelle Bayonnaire, ou Bolionnaire, c'est Bol, B-A-2-L, Ionnaire. Et donc, c'est effectivement plus souvent des boules. Et en fait, à chaque interaction qu'on va avoir avec les éléments qu'on va placer sur le plateau que descend la boule, on va gagner des points. Ou alors, il y aura des réactions. On peut par exemple couper la boule en deux pour qu'elle aille activer sur différents endroits du plateau. Si par exemple on touche un élément qu'on a rajouté d'une certaine façon, il va créer une deuxième boule qui va descendre aussi, et on peut changer la gravité, enfin bref, il y a énormément comme ça d'interactions et de changements dans le fonctionnement des règles possibles, et tout est basé là-dessus en fait. On va vraiment au fur et à mesure ajouter des éléments au plateau pour en faire une machine à points. Parce que le but du jeu, c'est que, un peu comme dans un Balatro, il faut atteindre un certain score pour passer à la suite. Et on a un certain nombre d'essais à chaque fois. Et donc, une fois qu'on a passé tous les essais, et si on réussit le score, et ben, on a un bonus supplémentaire qui vient, qui double nos points. Enfin bref, il y a plusieurs comme ça éléments qui viennent impacter le jeu de façon un peu plus profonde que simplement les éléments qu'on rajoute à chaque lancer de boule sur le plateau. On peut en enlever, on peut les modifier, enfin voilà, il y a plein d'interactions possibles, et en fait, dans le jeu en lui-même, c'est préparer le plateau. Parce que, comme dans un pachinko, en fait, quand on appuie sur le bouton pour faire tomber la boule, on n'a aucun contrôle. Elle va tomber de façon complètement aléatoire, à droite, à gauche, partir dans telle ou telle direction, rebondir sur tel truc, donc ensuite déclencher des éléments en chaîne.
Ton jeu, il me fait penser à... Alors, c'est Peggle, c'est ça?
Ouais, complètement.
Tu fais penser à Peggle.
Ouais, il y a un petit peu ça dans l'idée.
Un
ouais.
côté où tu essayes de préparer le truc, et après, une fois que tu lances le jeu, le but, c'est de regarder comment ça va réagir, et que ça pète dans tous les sens, et que ça te fasse des scores, quoi. Donc, Peggle.
Et ouais. Non, mais pardon, j'ai reçu un message. Et on a gagné une tarte. Voilà.
Et ben on y retourne après. Enfin moi j'y retourne après. Toi,
ouais, moi j'ai le temps.
Toi,
mais moi, bah, j'ai le temps.
Ah bah parfait.
Bah je suis en week-end. bref, Bayonair. Donc voilà, c'est vraiment le genre de jeu en fait qui te prend parce que tu des fois tu vas lancer. T'avais prévu que en fait la boule elle tombe par là puis ensuite par là que ça fasse telle réaction en chaîne et en fait le truc il va tomber à droite ou à gauche sans te faire un seul point, t'es là merde mais qu'est-ce que enfin le jeu m'aime pas enfin tu sais, tu commences à avoir envie effectivement d'étrangler des chatons enfin et puis à l'inverse des fois t'as des trucs qui se déclenchent en chaîne qui se redéclenchent dans tous les sens, ça dure 2-3 minutes sans que tu touches à rien mais que ça pète le feu à l'écran. Le genre en fait de truc complètement addictif en termes de récompense mécanique de récompense. Et un peu comme oui. Le pachinko de base en
oui,
fait.
Oui, bah, très bien. Donc tu as.
Et comme Balatro en vrai. Alors, c'est le même principe.
Donc ce que j'ai compris, c'est que t'as goûté à l'héroïne et que ça t'a plu. C'est très bien.
Alors, il a des défauts.
Non, mais t'as goûté à l'héroïne quand même. Hein. L'héroïne aussi a des défauts. Je sais
pas
si
oui, non, mais bah, ça a d'autres conséquences en fait.
Je sais pas si t'es au courant.
Oui, oui. Mais... Alors la démo de Bayonair donc est toujours disponible. Voilà. Si quelqu'un d'autre veut goûter à ce genre de jeu. Ça plaira pas à tout le monde, hein, clairement. C'est pas un concept qui. C'est très contemplatif en vrai.
J'ai plus envie de l'essayer que Balatro pour le coup.
Ok.
Balatro qui m'avait un peu gonflé assez rapidement.
Ah, qui est un peu basé sur un truc, alors que effectivement dans la démo de Bayonair, tu vois pas mal de façons différentes de mettre en place ton plateau. Tu as des trucs qui sont des synergies qui se mettent en place, des boules de feu, des boules d'eau, des boules de. Enfin voilà, qui vont avoir des impacts. Différent sur le plateau et sur les éléments que tu y mets. Donc très curieux de ça parce que tout comme dans ce genre de jeu en fait tout va être lié à la quantité d'éléments différents que tu peux faire interagir, mettre des synergies entre eux et il y en a déjà beaucoup dans la démo. Vraiment beaucoup et il y a déjà des plateaux de formes différentes, tu as le classique pyramide mais tu as d'autres trucs, tu as des plateaux qui tournent.
Ah d'accord.
Tu as des plateaux aquatiques, enfin bref,
tu sais si la démo est encore dispo ?
La démo est encore dispo, ouais.
Ok, ben, peut-être que j'essaierai ça ce week-end.
Voilà. J'ai passé du temps, bizarrement.
Eh ben, oui, ben, bien sûr.
Ah oui, évidemment. Oui, voilà.
Eh ben, merci pour la présentation. Il reste un quart d'heure, donc je vais un petit peu presser le pas. Il y a surtout il y a deux jeux dont je veux parler. Le premier, ouais. C'est Scarlet Deer Inn.
Oui.
Scarlet Deer Inn, en fait, qui est un. Qui se présente à la base comme un point and click, mais qui se joue à la manette, qui a l'apparence en fait d'un side scroller 2D, donc c'est-à-dire que on voit le personnage de côté et on se déplace juste de droite à gauche. Et des fois il y a quelques embranchements où par exemple il y a une porte, donc on va aller vers le haut pour aller en fait dans la salle en question. Et la salle est représentée toujours de droite à gauche, etc. Et au début en fait. En tout cas, dans la démo, moi, je croyais vraiment que c'était avant tout un point and click, vu que, en gros, on se retrouve assez rapidement à devoir aider une vieille dame qui nous donne plein de tâches à faire dans un village, sachant qu'on est censé se trouver en Bohême au Moyen Âge.
D'accord.
C'est pas précisé quel Moyen Âge, mais vu les technos, je dirais. Plutôt vers 1003 que vers 1008, on va dire. Hein. Voilà. Okay. Et en fait, on se retrouve. Elle nous donne plein de tâches, elle nous donne des trucs. Il faut aller voir un tel. Un tel, en fait, c'est pas dispo. Donc, il faut parler à l'autre personnage pour ensuite avoir les infos, etc. Donner tel truc à telle personne, etc. Donc, on se dit, bon, c'est full. Et c'est fou le point and click. Et au début, t'as vraiment l'impression que bon, c'est juste du quotidien, quoi. Pur jus. Sauf que, au détour, au détour d'un des trucs que tu dois faire, tu dois donner quelque chose à, je sais pas, je crois que c'est un palefrenier, donc quelqu'un qui gère les chevaux, plutôt. Et puis, en gros, tu dis, ah, ben, il est pas chez lui, ben, j'entends des bruits dans l'étable. Tu rentres dans l'étable, il y a un sous-sol, et puis, alors je veux pas spoiler, mais ça vire tout de suite dans un truc plutôt graphique, d'un coup.
Mm-hmm.
Voilà. Et assez graphique et assez fatal pour le personnage principal.
D'accord, donc de circonstances, vu la période d'Halloween qui arrive.
Voilà.
Ok.
C'est ça. Et on se dit, ah, bah, le jeu, il est terminé vite, vu que c'était assez fatal pour notre personnage.
Oui, forcément.
C'était, vas-y. Et en fait, on se réveille, et là, le jeu se transforme plutôt en jeu de plateforme. en puzzle platformer, en fait.
Ok.
Moi, j'adore les puzzle platformer, donc c'est assez voilà. Et surtout que un puzzle platformer plutôt malin dans sa manière d'être, et surtout qui répond au doigt et à l'œil, ce à quoi je m'attendais pas trop, vu que en général, quand on est sur des jeux type point and click, on s'attend à un temps de réponse pas super génial.
Ouais, c'est pas basé. C'est pas basé sur les réflexes.
Quoi. Ouais, voilà. Et non, là, ça marchait vraiment bien et ça m'a vraiment plu. Je sais pas dans quelle direction ça va aller, mais un truc qui est sûr, c'est que le jeu, il est extrêmement bien dessiné.
D'accord.
Il est magnifique. Alors, vu que ça se passe en Bohème, il se trouve que c'est un jeu tchèque.
Mmh.
C'est un jeu tchèque. Je sais pas quand il sort. Je sais que c'est un des jeux que j'ai trouvé le plus agréable, en tout cas, à manier.
D'accord.
À manier, en fait. Et donc, voilà, ça s'appelle Scarlet Deer Inn. Et je le suis de façon, je suis de près. Très rapidement, je vais parler de Curse Bane avant de te laisser la main pour la fin.
Oui, d'accord, tu en avais parlé aussi.
Oui, Curse Bane, en fait, donc un jeu coréen de Flyway Games qui est, je trouve, une très bonne variation sur la thématique de Hades.
Okay.
En gros, le principe, c'est qu'on va avoir un rogue où on va. Là, on est en extérieur, on va arriver dans un endroit, on va tuer des ennemis, et il va falloir choisir la suite. Et en fait, là où dans Hades, et je trouve trop de clones de Hades, en fait, c'était vraiment calqué sur. Selon la récompense que tu peux avoir à la salle suivante, tu vas choisir ton chemin. Là, c'est plus de. En gros, il y a des mini actions que tu peux faire sur les maps sur lesquelles t'es, sauver un personnage ou au contraire le buter et dire ou le laisser pourrir, voilà. Et en fait, ces actions-là vont avoir des conséquences. Et c'est ça qui va déterminer, en fait, le sorte de scénario qui va se dérouler sur les prochaines salles.
D'accord, ok.
Sur les prochaines salles, en fait.
Oh, ok.
En gros, par exemple, je dis n'importe quoi. En gros, tu vois, il y a un orphelin quelque part sur la map. Tu le sauves, voie A. Tu le sauves pas, voie B. Et on va voir ce qui se passe.
Okay.
D'accord ? Est-ce que ça aura des conséquences plus tard, etc., etc. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que c'est moins le côté course à la récompense, plus le côté entre guillemets scénaristique. Ça reste des tout petits scénars, quoi. Mais et après, les mécaniques sont assez un peu punitives, mais plutôt intéressantes. J'aime bien comment ça se tape. Okay. Le pixel art est vraiment joli. Donc voilà, pour le coup, je le suis de près. C'est un jeu de Flyway Games et globalement c'est Krafton, donc on est à peu près sûr qu'il sortira celui-là.
Oui, il y a du financement derrière.
Oui, voilà, il y a
ça, pour
le coup, il y a des sous. Étonné par contre que en termes de pub, il soit pas allé bien fort.
Ouais.
J'ai dû le chercher. Enfin, je l'ai cherché. J'ai eu un peu par hasard. Alors que je pense qu'un jeu à la Hades, ça peut.
Oui, ça aurait pu être lié, enfin en tout cas dans des recherches plus.
Ouais, ils auraient pu le mettre en avant, alors que là, je pense que vraiment, j'ai l'impression d'avoir été un des seuls à faire un retour dessus, quoi.
Effectivement, ouais, je l'ai pas beaucoup vu pour en avoir parlé un petit peu, enfin des jeux que j'ai essayé, quoi. Mais et en fait, j'étais en train de regarder parce que, comme je disais, j'en ai fait pas mal des démos, mais il y en a pas tant qui m'ont marqué.
C'est le sentiment global, en fait, que j'ai sur ce Steam Next Fest.
Ouais.
Pas ouf.
Ouais, en termes de proposition.
Là, j'ai à peu près dit tous les jeux qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment plu.
Ouais.
Il en manque peut-être un qui est Locomotive, mais voilà.
Oui, alors effectivement, je l'ai fait aussi. Mais bon, c'est peut-être un tout petit peu. Enfin, c'est pas de celui-là, effectivement, que j'aurais envie de parler.
Il est cool, mais j'ai pas trouvé ça grandiose non plus, quoi.
Non, t'avais un vrai point de départ excellent qui était l'espèce de mini-jeu qu'ils avaient fait pendant une game jam. Et pour ce qu'ils avaient sorti en un week-end, c'était incroyable.
Était dispo sur Itch.io.
Ouais. Et il était sorti en un week-end de game jam. Et pour le contexte dans lequel il l'avait sorti, c'était incroyable. Qualité d'écriture, etc., c'était excellent. Mais.
Pour l'instant, le jeu, je le trouve plus drôle qu'intéressant, en fait. Il est extrêmement drôle. L'humour, il est au point dans Locomotive, mais il n'est pas. Après, en termes de mécanique, je ne l'ai pas trouvé. Il est OK. tu vois.
Mmh, ouais.
Si t'as du mal à trouver quelque chose, je peux passer non. deux mots sur Amerzone en disant que c'était cool.
Non, j'ai The Axis Unseen.
Oui, effectivement, vas-y. Celui-là, on a un peu entendu parler. Alors, il est pas parmi les 20, mais je l'ai vu bien remonter aussi.
Ouais, parce qu'en fait, ça a dû jouer, hein, il est sorti. Il a profité de quoi de...
Il y a un côté horreur aussi, non?
Alors, oui. Un petit peu dans.
Il y a eu beaucoup de jeux d'horreur, là, d'ailleurs, hein, j'ai trouvé. Hein.
Ouais.
C'est la période, hein.
C'est ça, c'est un tout petit peu, un petit peu triché, mais. En fait, c'est fait par un gars solo. C'est fait par un mec, en fait, qui a bossé sur Skyrim.
Ah ouais, comme Escape Everlit, solo.
Voilà, exactement. Le même principe, même esprit. Donc, un mec qui a bossé chez Bethesda, beaucoup, sur les Fallout, sur Skyrim. Sur ces jeux-là, quoi.
Qu'est-ce que ça me fait mal quand tu dis Bethesda et Fallout? Mais vas-y.
C'est quand même pas de ma faute, hein. C'est eux qui ont acheté. Ouais, donc c'est Nate Perkypile qui a fait ça, qui a bossé sur Starfield. Qui a aussi bossé sur des trucs comme Metroid Prime 3, enfin bref. Lead artist sur Fallout 76.
Je ne ferai aucun commentaire.
Voilà. Non, mais c'était juste pour te faire mal, tu vas planter le couteau puis remuer un peu. Bref,
J'ai envie d'une tarte.
Donc. Toujours est-il que The Axis Unseen, comme on pourrait s'y attendre de la part de quelqu'un qui a bossé sur les jeux 3D de Bethesda, que sont Skyrim et Fallout, les Fallout de Bethesda. Donc on est sur un jeu en vue à la première personne, où il y a de la magie là-dedans, il y a un côté, et c'est beaucoup de violence, puisqu'on va donc se foutre sur la gueule avec des espèces de créatures... gigantesque de façon générale, enfin des espèces de cerfs, enfin ou de sangliers, enfin je sais pas exactement ce que c'est, les machins, là, espèces d'animaux chelous qui te foncent dessus, et en fait il faut les flinguer à l'arc.
Ah mais enfin moi je sais que le jeu il m'avait horripilé parce quand je l'avais essayé parce que je comprenais pas les lignes de tir, je comprenais pas une de vue, je comprends pas non
faut
plus
comprendre
les
un petit peu la physique aussi.
La physique du truc qui a l'air lunaire.
T'es un peu
c'est littéralement lunaire.
T'es sur la lune donc quand tu sautes très très loin, quand tu te fais rentrer dedans, tu décolles dans tous les sens.
Je sais que le jeu m'a gonflé assez rapidement.
Mais derrière, bon, il y a un côté pas réaliste mais assez
crédible, on va dire.
Ouais, voilà, au niveau graphisme, et t'es dans un monde où tout, enfin, le décor en fait est peuplé de squelettes de créatures, majestueuses, enfin j'en sais rien, monstrueuses quoi. Elles font 15 mètres, 20 mètres de haut quoi, par rapport à ton personnage.
Bien.
Et donc, et t'as aussi quelques monstres qui font 3 ou 4 mètres, qui sont des géants en fait, qui te foncent dessus. Et donc, ouais, il faut les flinguer à l'arc, sauf que t'as que 4 ou 5 flèches, enfin tu peux augmenter ton nombre de flèches max, mais en gros, t'en as que quelques-unes sur toi en permanence. Et pour en récupérer, il faut aller récupérer sur les cadavres des bestioles que t'as buté. Donc voilà, t'as ce côté un petit peu gestion de...
Pas du tout spartiate de ouf, quoi.
Non, du tout. Tout va bien.
Ça me fait penser à un jeu en 2D vu du dessus, enfin ISO, qui s'appelait Titan Soul.
Ouais.
Où en gros, t'avais une flèche et puis bonne... Et en gros, c'était...
Même principe que Towerfall ou genre de truc où t'as une flèche et faut aller la chercher.
Sauf que là, c'était en gros des combats de boss. Et en gros, et le but, c'était en gros voir le pattern, éviter les patterns de taré qui te mettaient et puis avoir l'opportunité pour mettre la flèche au bon endroit, quoi.
Et là, donc, on est vraiment se déplacer dans un univers très, 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 très bizarre, enfin, très, très gênant d'une certaine façon. Il y a là une cannibale, enfin, tu vois, on en parlait. Mais elle est clairement dans le décor, dans la façon dont le décor est présenté. Il y a des squelettes immenses et même des morceaux en fait de squelettes qui font des ponts, tu vois, des colonnes vertébrales qui sont gigantesques, qui servent de pont entre espaces pour te faire passer donc vers un autre espèce d'amas de squelettes, bref.
Ouais,
et à intervalles réguliers, tu passes
genre Geiger.
D'une certaine façon, mais en très coloré, très 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 ensoleillé.
Ah oui, Geiger est coloré, ça.
Voilà, mais il y a un petit peu quand même quelque chose dans l'esprit. Enfin, voilà. Enfin, c'est très très particulier. La démo, elle est. C'est un monde ouvert qui ne t'explique rien. Hein. Là aussi, vas-y, amuse-toi bien, bonne chance. Et la démo, donc un tout petit peu trop ouverte justement. Enfin, t'es à moitié paumé, t'sais pas où aller. Tu regardes, tu vois des trucs en fait, et tu te dis tiens, je vais y aller parce que. Le créateur du jeu l'a dit, on est dans le même principe que Skyrim, tu vois une montagne, ça veut dire que tu peux y aller, quoi.
Ok.
Donc le terrain de jeu, il l'a déclaré également, va être, je crois qu'il est deux ou trois fois plus grand que celui de Skyrim. Voilà, donc c'est n'importe quoi en termes de volume.
Sauf que de ce que je comprends, t'es tout seul et il n'y a pas de PNJ.
C'est une bonne question. Franchement, j'en sais rien.
Bien.
Donc, franchement, j'en sais
rien. Donc, voilà. C'est un jeu assez mystique quand
même. Ouais. C'est assez mystique, mais il est quand même, je trouve, très très réussi visuellement. Et par son ambiance et même les mécaniques de gameplay, moi je les trouve pas si, enfin elles sont pas forcément très faciles d'accès effectivement. Comprendre un petit peu la mécanique des, enfin la physique des flèches. Forcément, c'est une flèche, elle finit par retomber au bout d'un moment. Donc, enfin, si tu vises des trucs loin, etc. Il y a quelque chose à un coup à prendre. Pareil pour les déplacements dans l'espace avec les sauts qui peuvent être extrêmement hauts. Donc voilà. Mais lui est sorti et je crois que la démo n'est plus dispo. Par voie de conséquence.
D'accord.
Donc voilà, mais ça reste un des trucs qui m'a un petit peu marqué pendant ce fest.
Ok, donc pour résumer, pas mal. Alors là, effectivement, on a quand même discuté de pas mal de démos qui nous ont plu, même si on a un sentiment, je pense que tu partages avec moi, relativement mitigé par rapport
à la disponibilité.
À la disponibilité par rapport à. On a eu des Steam Next Fest où pour le coup on savait plus où donner de la tête tellement il y avait des bons jeux. Là pour le coup ça a été relativement facile. Alors, de réduire.
Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas si c'est parce que c'était des jeux moins avec moins de visibilité avant. Tu vois ce que je veux dire, moins attendu peut-être.
Ouais, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, ce qui montre que même dans des périodes où on est peut-être potentiellement moins accroché, on va toujours trouver en fait des titres où on se dit waouh, c'est à suivre, c'est vraiment bien. Et de manière générale, continuer le Steam Next Fest parce que au moins juste jouer à des démos, parce que ça permet juste de savoir un jeu on avait dit ah ça pourrait être pas mal, juste le tester et se dire finalement il est pas pour moi. C'est très très très, très très bien.
Ou à l'inverse, tiens, je connais pas ce truc, qu'est-ce que c'est, et tomber sur un truc qui en fait t'accroche.
Mais c'est toujours plus intéressant que s'en remettre à des vidéos YouTube à des avis ou à des chaînes Twitch. Ce qui est différent entre mettre la main dessus et puis regarder des gens jouer ou lire un avis, c'est quand même pas la même. Donc voilà.
Ouais, carrément.
Écoute,
on a réussi à faire quelque chose.
Mais oui. Écoute, pas grâce à toi, mais je te remercie quand même d'être venu.
Mais je te félicite également pour l'absence de ton travail.
Alors moi, j'ai bossé, j'ai écrit des trucs à un moment.
Ah bah écoute, j'allais te dire que ça s'est pas entendu, non. Sur ces bonnes paroles.
Écoute, on revient la semaine prochaine, où pour le coup là, on reparlera de conditions de travail dans le jeu vidéo
français. Oui. Il y a tellement de choses à dire.
Et il est possible que j'amène un petit invité.
D'accord, très bien. Qui va nous pas donc un mec qui bosse chez Ubisoft, c'est ça?
Alors, je lui souhaite pas. Je lui souhaite pas. Okay. Voilà. Après, ce sera ses choix, il me dira.
Ok.
Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, d'ici là, jouez bien. À jeudi prochain.
Bonne soirée.